Bienvenue sur la radio Dynamique.
Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling feet. That's the jingle bell. That's the jingle bell. That's the jingle bell rock.
Bonjour à tous, bienvenue pour une nouvelle émission de la web radio Dynamique au collège Arthur Rimbaud à Latillée. Aujourd'hui, j'ai à ma table trois chroniqueurs, donc j'ai Grégoire.
Salut à tous.
J'ai Émilie.
Salut.
Et j'ai Aloïs.
Bonjour tout le monde.
Nous allons tout de suite commencer par la chronique de Grégoire sur la F1. C'est parti Grégoire.
La victoire de la Mercedes.
Lewis Hamilton, champion du monde de Formule 1 pour la 7e fois. Montez le volume et rendez-vous au premier virage.
Salut à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle chronique F1 et aujourd'hui, on va parler du championnat des pilotes et du championnat des constructeurs automobiles. Vous êtes prêts? C'est parti! Commençons par le championnat pilote. C'est le championnat où les pilotes s'affrontent lors des Grands Prix pour décrocher le titre de champion du monde. À la fin d'une course, selon votre place, vous gagnez un certain nombre de points. Seuls les 10 premiers gagnent des points. 25 pour le premier, 10 pour le second, 15 pour le troisième, puis 12, 10, 8, 6, 4, 2, 1, et 1 point pour le pilote ayant réalisé le tour le plus rapide du circuit. Quand toutes les courses de la saison sont terminées, on regarde le classement et le pilote qui a le plus de points est déclaré champion du monde. Voilà pour le championnat pilote. Maintenant, passons au championnat constructeur. Celui-ci est assez similaire au championnat pilote. Ce sont les deux pilotes qui marquent des points pour l'écurie. Imaginons. Le pilote A est premier et marque donc 25 points, tandis que le pilote B est sixième et marque 6 points. Il marque donc 25 plus 6, 31 points pour l'écurie. Pareil que le championnat pilote, quand toutes les courses de la saison sont terminées, on regarde le classement et c'est le constructeur automobile qui a le plus de points qui remporte le championnat constructeur. A savoir que la plupart du temps, le champion du monde est dans l'écurie qui a aussi remporté le championnat constructeur. Mais du coup, quel est le championnat le plus important ? D'un côté, il y a le championnat constructeur. Comme vous savez, le constructeur automobile doit construire la voiture dans laquelle le pilote va monter. Sauf que cela coûte très cher. Et c'est pour ça qu'une grille de gains est créée à la fin du championnat constructeur. Selon la place d'une écurie dans le classement, celle-ci gagne plus ou moins d'argent. Bien évidemment, cet argent se compte en millions de dollars. De l'autre côté, il y a le championnat pilote, qui lui sert plutôt à avoir une bonne réputation pour l'écurie. Plus un pilote gagne de titres de champion du monde avec son écurie, plus celle-ci gagne en renommée, ce qui peut potentiellement attirer de nouveaux pilotes, donc de nouveaux potentiels champions du monde, et donc plus de chances de remporter le championnat constructeur. Donc, en réalité, les deux championnats sont aussi importants que l'autre. Même si le championnat constructeur est un peu plus privilégié, car même si une écurie possède un très bon pilote, si celui-ci n'a pas une bonne voiture, il aura moins de chances de gagner. D'ailleurs, je vous fais une petite parenthèse pour vous dire que dimanche dernier, c'était la dernière course de la saison de Formule 1, donc de 2021, et que tout simplement, donc dimanche, on a sacré le nouveau champion du monde, qui est Max Verstappen. Et donc, malheureusement, j'ai pas eu le temps de faire de chronique sur donc ce nouveau champion du monde, mais du coup, on en parlera donc dans ma prochaine chronique, donc qui parlera du coup de Max Verstappen. Voilà, c'est tout pour moi. Rendez-vous à la prochaine chronique F1, et d'ici là, à plus!
Merci beaucoup Grégoire, est-ce qu'il y a des questions à la table? Visiblement non. Ah si, j'ai la main d'Émilie qui se lève. Vas-y Émilie, pose ta question.
Max Verstappen, que t'as dit qu'il avait gagné. Donc il a gagné, si j'ai bien compris, le championnat pilote.
Ouais,
mais
c'est ça.
Le championnat écurie, qu'est-ce qu'il a gagné du coup?
Alors donc ouais, t'as totalement raison, c'est Max Verstappen qui a gagné le championnat pilote. Et en fait, le championnat constructeur, il a été remporté par Mercedes. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est la 8e fois d'affilée qu'il le remporte. Donc c'est juste énorme.
Merci beaucoup, Émilie, pour cette question qui en apprendra plus sur la F1. Nous allons maintenant passer à ta chronique. D'ailleurs, Émilie, c'est parti.
Bravo. Vous êtes sur Internet.
Web Radio.
Salut et
ben bonjour à tous, moi c'est Émilie et je vais vous présenter l'histoire de notre web radio. Alors la web radio, c'est né de l'envie d'un petit groupe donc d'anciens élèves de 5e de faire un journal papier d'abord, puis du papier est né l'envie de faire de la radio. Nous en avons parlé à notre professeur documentaliste qui nous a dit que pour financer le projet, nous aurions besoin d'une aide financière pour acheter le matériel nécessaire. Nous sommes alors tournés vers Madame Lahorgue, notre CPE qui tient le foyer du collège. Elle a accepté de financer le projet pour notre plus grand bonheur et elle nous a même mis en contact avec une formatrice, Madame Rouget, animatrice culturelle et spécialisée en web radio dans les lycées Berthelot de Châtellerault. Il y a aussi l'association des parents d'élèves qui a financé l'ordinateur. Un grand merci à eux. Après plusieurs séances de formation avec Madame Rouget, autant pour la technique que pour la rédaction de chroniques, nous sommes fin prêts pour notre première émission, que vous pouvez retrouver sur le site du collège dans notre rubrique radio, sur la radio arc-en-ciel du lycée Berthelot. Notre émission s'appelle Dynamique, car nous sommes un petit groupe d'élèves, 12 élèves de 4e motivés et dynamiques. Un grand merci à tous pour ce chouette cadeau et c'est parti pour une année de folie!
Merci beaucoup Émilie pour cette chronique. Nous allons maintenant passer à Célia Louis s'il n'y a pas de questions, et visiblement il n'y en a pas puisque c'est une chronique informative pour vous chers spectateurs. Nous allons maintenant passer du coup à la chronique d'Aloïs sur le thème de l'espace. C'est parti Aloïs.
4, 3, 2, 1, 0. Mission and lift off. Godspeed Endeavour.
Bonjour, aujourd'hui on part dans l'espace pour fêter Noël. Et oui, c'est pas parce que les astronautes sont dans l'ISS qu'ils ne fêtent pas Noël. Alors pour Noël, les astronautes ont droit à un menu de chef. Et pour cause, ils choisissent eux-mêmes leur repas. C'est l'occasion de faire goûter la nourriture typique de leur pays à leurs collègues. Lors de sa dernière mission, dans l'ISS Proxima, Thomas Pesquet a pu déguster. De la langue de bœuf Lucullus au foie gras truffé, du suprême de volaille au vin jaune et au moril, et un pressé de pain d'épices aux fruits rouges exotiques. On peut dire qu'il a plutôt bien mangé ce jour-là. À noter que la nourriture était lyophilisée. Mais au fait, ça veut dire quoi lyophiliser ? Lyophiliser, c'est le fait de retirer l'eau d'un aliment. Il est donc déshydraté et il suffit de rajouter de l'eau pour qu'il redevienne normal. On peut aussi se poser la question de comment la nourriture arrive-t-elle dans l'ISS ? Eh bien, par des cargos, propulsés par un lanceur. Ce cargo va s'amarrer à l'ISS et les astronautes vont pouvoir récupérer les vivres et le matériel nécessaire à leur expérience. Car oui, les astronautes ne sont pas dans l'ISS juste pour pouvoir observer notre belle planète Terre. Ils sont là pour mener des expériences. Ensuite, ce cargo va servir de poubelle. Ils vont mettre tout ce qui est abyssal. Et oui, parce que dans l'ISS, on ne peut pas nettoyer les habits. On est donc obligé de les jeter et d'en amener de nouveaux. Ce cargo va se décrocher de l'ISS et va chuter. Enfin, il va brûler ou être carbonisé dans l'atmosphère. Et voilà, en tout cas maintenant vous savez tout sur comment arrive la nourriture dans l'espace et comment se déroule Noël dans l'ISS. C'est tout pour moi, je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, à la prochaine.
Merci beaucoup pour cette chronique, Aloïs. Est-ce qu'il y a des questions à la table ? Je vois encore celle d'Émilie se lever. Vas-y, Émilie, pose ta question.
Alors, je me demandais, tu as dit que le cargo qui rapportait des affaires, quand il revenait sur Terre, il était brûlé ou alors carbonisé. Ça veut dire que toutes les affaires qu'ils mettent dedans... Elles n'existent plus. C'est-à-dire, si jamais ils ont emmené leur t-shirt préféré qui est sale, et bah, elle n'existe plus du tout.
Alors, justement... Elle
revient en cendres.
Oui, un peu. Sachant qu'il est carbonisé au-dessus de l'océan, donc t'as même pas moyen de récupérer les cendres. Il faut savoir que, par exemple, s'ils emmènent... par exemple, je pense à Thomas Pesquet. Il avait emmené son saxophone dans l'ISS. Et il avait joué du saxophone dans l'ISS. Faut savoir, il est revenu après sur Terre avec le saxophone. Donc il y a deux types de cargos, il y a ceux qui sont faits exprès pour être brûlés et pour enlever tout ce qui est déchets des abyssales. Et il y a des cargos qui sont faits exprès pour revenir sur Terre, donc par exemple pour mettre, comme tu dis, leur t-shirt préféré ou même le saxophone de Thomas Pesquet et plein d'autres objets qu'ils ont emmenés.
Du coup, je voulais savoir, Aloïs, est-ce que tu sais par qui ont été faits donc les plats que dégustent les astronautes pour Noël ou pas?
Alors, ça dépend pour qui. Pour Thomas Pesquet, c'est un grand chef français. J'ai pas son nom, je suis désolée. Mais je peux vous dire que Thomas Pesquet, c'est un chef français étoilé. Et qu'il a pris de la nourriture qu'il aimait pendant son enfance. Donc c'est de la nourriture qu'il a marquée, qui lui rappelle là où il est né. Donc la Normandie et tous les pays. Enfin, tout,
Merci
toutes les
beaucoup.
Régions.
Ouais.
Merci beaucoup pour tout ça, Louis. Ça nous en apprend beaucoup sur l'espace et Noël, parce qu'on se posait beaucoup de questions quand même. Et donc, ce sera tout pour aujourd'hui. Alors, nous avons un petit bonus de Noël qui, voilà, a été fait par Grégoire et Chloé. Et donc, Grégoire va vous en dire un petit peu plus, puisque elle est un peu en retard. Voilà. C'est parti, Grégoire, explique-nous-en un peu plus.
Du coup, ouais, on a fait une petite chronique avec Chloé. Alors, donc, pas avec Chloé l'animatrice, mais avec l'autre Chloé qu'il y a dans la web radio, que donc vous avez déjà entendu dans la première émission. Et donc, avec Chloé, on a fait une petite chronique sur Noël. Donc, comment se passe Noël en Allemagne et en Espagne. Alors, donc, c'est pas une émission en direct. C'est une rediffusion, une retranscription, parce que on a eu des petits problèmes avec la web radio que malheureusement on ne peut pas vous dévoiler pour certaines raisons. Mais du coup, on a enregistré quand même cette chronique avec Chloé, et donc on espère que ça vous plaira. C'est tout de suite.
Bonjour à tous.
Moi c'est Grégoire.
Et moi c'est Chloé. À l'heure où nous tournons cette émission, nous sommes en plein mois de décembre. Et qui dit décembre dit...
Noël. Et aujourd'hui, nous allons vous expliquer comment on célèbre Noël en Espagne et en Allemagne pour que vous soyez incollables lors des repas de famille.
C'est parti.
Feliz Navidad. Feliz Navidad.
Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer, Chloé, comment se passe Noël en Espagne?
Eh bien, figure-toi que c'est ce que je comptais faire. Déjà, vous vous demandez sûrement quand commence Noël pour les Espagnols. Eh bien, ça commence le 22 décembre avec la loterie de Noël qui, en espagnol, se dit Lotería de Navidad. Le système est assez complexe en raison de la multiplicité des formats de vente. Un billet correspond à un numéro à 5 chiffres compris entre 00000 et 84999. Certaines associations, cafés, bars, clubs, etc. achètent plusieurs séries de billets et les revendent sous la forme de participation. Les fêtes poursuivent le 24 et 25 décembre, car comme en France, les Espagnols fêtent Noël ce jour-là, tout comme le premier de l'an. Mais ce n'est pas fini, car le 28 décembre, c'est El Día de los Inocentes, en français, le jour des blagues. Le concept est le même que le 1er avril en France, sauf que, au lieu que cela soit des poissons que l'on colle dans le dos, ce sont des petits bonhommes en papier appelés Inocentes. Les festivités continuent dans la nuit du 5 au 6 janvier, lors du défilé des Rois Mages. Les Rois Mages, c'est le Père Noël, mais pour les Espagnols. Donc des gens déguisés en Rois Mages défilent dans les villes et villages, ce ne sont pas les mêmes personnes, bien évidemment. Et c'est comme ça que les célébrations se finissent. Le 6 décembre, les enfants retrouvent sous le sapin des cadeaux de la part des Rois Mages. Pour ceux qui se demandent, oui, ils ont 2 jours de cadeaux. Le 25 décembre et le 6 janvier. Voilà, je crois que c'est tout pour moi. Je laisse la parole à Grégoire qui va nous expliquer comment se passe Noël en Allemagne.
Merci Chloé. En Allemagne, on commence à fêter Noël, Weihnachten en allemand, dès fin novembre avec l'Adventskranz qui veut dire couronne de l'Avent en français. Celle-ci marque le début des festivités de Noël en Allemagne. L'Adventskranz est une couronne en paille décorée avec des branches de sapin, des cerises et des pommes de pin, mais surtout, le plus important, 4 bougies. Les 4 bougies marquent les 4 semaines de l'Avent et sont allumées chacune les 4 dimanches de l'Avent. Quand Noël sera là, toutes les bougies auront été allumées. Mais ce n'est pas fini. En plus de l'Adventskranz, les Allemands célèbrent le 6 décembre Saint-Nicolas. Saint Nicolas était un évêque qui vivait au 5e siècle. Celui-ci était connu pour la protection des enfants et est mort le 6 décembre. Et depuis le 14e siècle, la coutume veut que le 6 décembre, Saint Nicolas offre des cadeaux aux enfants. Aujourd'hui, comme le Père Noël, Saint Nicolas est joué par un membre de la famille. Et après que les enfants ont récité un poème, il lit son livre d'or pour voir si l'enfant a été sage pendant l'année. Si tel est le cas, il leur donne des friandises ou des petits cadeaux. Mais ceux qui ne sont pas sages doivent rencontrer le Père Fouettard. Celui-ci accompagne Saint Nicolas et distribue des coups de fouet au vilain garnement. À partir de la première semaine de l'Avent, beaucoup de villes ou de villages organisent un marché de Noël. On y trouve de petites boutiques avec des articles de décoration de Noël, des produits régionaux ou artisanaux, des petits cadeaux et bien évidemment de quoi manger. Le 24 décembre est la journée précédant Noël qui est appelée en Allemagne Heiligabend ou Heiligabend. Le matin, on fait ses dernières courses pour ériger et orner le sapin de Noël et pour installer la crèche. Car en Allemagne, on installe le sapin que la veille de Noël. Le soir, on a un simple dîner traditionnel de la région et après celui-ci, on offre les cadeaux et on chante des chansons traditionnelles de Noël. Voilà comment se passe Noël en Allemagne.
Bon, eh bien maintenant, je crois que vous savez comment se passe Noël en Allemagne et en Espagne.
On compte sur vous pour étaler votre science lors des repas de famille.
Enfin, c'est quand même notre science, donc faites pas trop les malins non plus.
En tout cas, on vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année.
À plus.
Merci beaucoup à tous pour vos chroniques qui nous en ont dit beaucoup plus. Et à très bientôt pour une prochaine émission de la web radio dynamique. Et donc, on sera en 2022. Un petit mot de fin pour les chroniqueurs, c'est parti.
Et bah du coup, moi je vous souhaite un très 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 joyeux Noël et une très bonne fin d'année. Et du coup, on se retrouve l'année prochaine, pour toujours des émissions, des chroniques de dynamique. Je vous souhaite donc un très joyeux Noël, très bonne fin d'année. A plus!
Salut, alors bah moi je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui partent et donc pour ceux qui vont au collège, lycée, passer un joyeux Noël et des super bonnes fêtes. On se retrouve en 2022 et j'espère que votre bonne résolution ce sera de continuer à écouter cette radio.
Merci en tout cas d'avoir suivi cette émission. Moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et puis à bientôt pour d'autres émissions du rire et un peu de folie.
Merci à tous et moi je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année et un joyeux Noël et j'espère que vous aurez tous les cadeaux que vous voudrez.
That's the jingle bell ride.